franceinter.fr.
Et à la une de la science aujourd'hui, la date et les conditions d'apparition du genre Homo sur Terre qui se précisent.
Grand fleuve africain oublié, l'Homo parcourt un millier de kilomètres sur le plateau éthiopien avant de se jeter par ce delta extraordinaire dans le lac Rodolphe au Kenya. Dans sa basse vallée, il serpente en large méandre, accompagné d'une forêt riveraine qui cède vite la place à une savane très sèche. C'est là que se trouve le gisement de l'Homo.
Vous êtes reconnu, Yves Coppens? C'était vous,
hein? Oui, avec émotion.
Voilà, en 1975, on vous a invité aujourd'hui parce que des chercheurs américains et éthiopiens viennent de publier dans les revues Nature et Science la découverte d'une demi-mâchoire qui en dirait long sur l'histoire de l'humanité. Elle serait la plus ancienne trace du genre humain, le premier homo, donc, hein, c'est ça. Ouais. Ce qui nous recule de 400 000 ans, en tout cas la date supposée de l'apparition d'homo sur Terre. Vous êtes paléoanthropologue, découvreur de l'Australopithèque Lucy, et d'ailleurs, c'est dans la même région de l'Éthiopie, hein, qui a trouvé cette demi-mâchoire.
Ah oui, tout à fait. Oui. C'est même plus joli que ça sur le plan poétique. En 1969, un collègue qui s'appelle Maurice Taïeb, qui est géologue, faisait sa thèse sur le bassin de la Wash. On ne connaissait absolument rien sur le plan paléontologique de l'Afar. Oui. Et il est arrivé chez moi, si j'ose dire, au Musée de l'Homme, où j'étais à l'époque, avec une dent d'éléphant fossile. Et comme je connaissais bien les éléphants fossiles, je lui ai dit, c'est un éléphant qu'on appelle Reki, il a entre 2 et 3 millions d'années, ce qui l'a beaucoup frappé, parce que enfin, quand on a une expertise, on la pratique, hein, c'est pas extraordinaire. Et donc, ça s'est confirmé, et c'est à partir de ce moment-là qu'a commencé cette exploitation du triangle, ce qu'on appelle le triangle de l'Afar, tout à fait extraordinaire, tout à fait fécond, tout à fait fertile, tout à fait plein de fossiles de toutes sortes, dont ceux qui ont été trouvés en 2013 et qu'on publie aujourd'hui.
C'est ça. Alors, quelle est l'importance de cette découverte, Yves Coppens? Parce que c'est un recul donc, de 400 000 ans pour l'apparition du genre humain, qui passe donc de 2,4 millions d'années à 2,8. On pensait pouvoir en trouver d'aussi vieux ou pas?
Oui, alors il y a toujours l'hypothèse, vous savez, que nous pratiquons volontiers dans les pays occidentaux qui sont moins pratiqués en Amérique, où on est vraiment au ras des données. Et on pensait depuis longtemps que l'homme pouvait avoir autour de 3 millions d'années pour une raison, pas en l'air comme ça, mais pour une raison simple de changement climatique. Oui. Quand on propose des choses de ce genre, ce ne sont que des propositions, il faut les tester. Et quand sur le terrain des collègues, des jeunes gens, trouvent la démonstration, à ce moment-là, ça devient véritablement scientifique. C'est-à-dire que ce bout de mâchoire qui n'a l'air de rien, avec ses quelques dents, est extrêmement important parce que de 2,4 millions avérés, on est à 2,8 millions avérés. Donc c'est tout à fait intéressant, tout à fait solide, et quand on a une démonstration, la science est heureuse.
Voilà, et c'est notre histoire que ça raconte.
Ah, c'est tout à fait notre
directement,
histoire.
Directement.
Oui. Ah oui, tout à fait notre histoire. Ça veut dire que l'homme est d'origine unique, ça veut dire qu'il est d'origine africaine, ça veut dire qu'il est d'origine tropicale, ça veut dire que c'est à partir de là que toute l'humanité s'est déployée à travers l'Afrique d'abord, l'Eurasie après, et l'Amérique ensuite, et l'Australie en même temps. Et c'est une grande histoire, en même temps scientifique et théorique.
Axel Villard.
À vous écouter, on devrait pouvoir en trouver des plus vieux, alors.
Oui, enfin, moi, j'ai toujours tendance à chercher plus anciens. J'avais un vieil ami au Musée de l'Homme qui est mort depuis longtemps, qui était un des deux premiers...
Quand vous dites un vieil ami, on peut s'attendre vraiment à quelqu'un de très vieux.
Hein. Oh, dites donc, attention à ce que vous dites. Ouais. Qui est mort depuis longtemps, quand même.
Ouais.
Et qui était un des deux premiers sous-directeurs du Musée de l'Homme. Et il me disait, au fond, toi, quand tu avances, tu recules. Et c'est ce que
c'est
ça veut dire.
C'est puisqu'on repousse encore. Ouais.
Alors, on repousse encore jusqu'à certaines limites, parce que les limites dépassées, ça n'aurait plus de sens. Il y a quand même une certaine cohérence dans cette histoire. On ne peut pas faire des genres humains à 10 millions d'années. Mais ceci dit, un genre humain qui a 2,8 millions au lieu de 2,4 millions et qui pourrait avoir autour de 3 millions d'années, c'est dans la cohérence.
Yves Coppens, cette mâchoire, donc, elle ressemble beaucoup à ce qu'on connaît évidemment du genre homo, mais aussi avec des caractéristiques australopithèques. Alors ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut parler de ce fameux chaînon manquant ou pas?
Ben, on peut toujours en parler, parce que la paléontologie, finalement, c'est la science de la recherche des chaînons qui manquent. Mm-hmm. Donc à chaque fois qu'on trouve un fossile nouveau, c'est un chaînon de moins qui manque. Ouais. Ceci étant dit, comme on connaît pas mal, de mieux en mieux, le vivier de formes préhumaines qui précède l'homme, et au cœur duquel on trouvera un jour véritablement l'ancêtre de l'homme, on cherche les filiations. Hein. Le fait qu'il y ait des éléments intermédiaires est évidemment extrêmement précieux, parce que cet ancêtre à l'origine directe de l'homme, on ne l'a pas véritablement identifié.
Alors, quelles caractéristiques d'ailleurs, homo et australopithèque, sur cette mâchoire?
Ben, l'australopithèque, en l'occurrence, est un personnage qui est essentiellement végétarien, majoritairement végétarien.
Donc c'est Lucie, hein, on le rappelle.
C'est Lucie, par exemple. L'homo habilis, pour des raisons environnementales et donc des nécessités, s'est mis à manger aussi de la viande. Aussi de la viande parce qu'il y avait moins de végétaux. Mm-hmm. Ce n'est pas par gourmandise, c'est par nécessité. Et ceci a transformé ses dents en ce sens que les dents d'un omnivore, et en particulier les dents d'un carnivore, ne sont pas les dents d'un herbivore. Enfin, ce n'est pas tout à fait herbivore, mais végétarien. Et donc, en ce sens, si on a là quelques intermédiaires, ça va éclairer beaucoup les filiations. Et comme vous savez, les paléontologues sont obsédés par deux choses: la datation et la filiation.
Bon, c'est pas tout à fait le régime crétois, mais enfin, il y a déjà quelque chose qui tend vers. Axel, pour terminer.
Quand on observe 5 dents comme ça, au microscope, on peut en déduire un régime alimentaire?
Beaucoup de choses. On peut en déduire beaucoup de choses par la morphologie de la dent. Je vois mon compère d'en face,
Sylvain Duval,
qui acquiesce, et qui a été élève de
Michel Brunet.
Michel Brunet, est un collègue. Donc on est un peu dans le même bateau, si je puis dire. Donc la morphologie dentaire, d'abord, va indiquer ce que mange le personnage. Si on fait une microscopie électronique de la surface dentaire par les rayures, les usures, on verra s'il mange plus de viande que de végétaux ou inversement. Si on arrive à l'intérieur de l'os lui-même et de la dent elle-même, la microscopie de l'émail, par exemple, les microstructures de l'émail, donnera aussi des informations sur le mode de vie, le comportement et l'environnement. Et si on va encore plus profond, on trouvera des isotopes instables comme comme le carbone ou l'azote, qui donneront encore des idées plus précises.
Donc on en lit des choses dans les
dents. Sur ce que mangeait. Tous les objets ont beaucoup de mémoire, mais l'essentiel est de connaître cette mémoire et savoir la lire.
Merci beaucoup Yves Coppens pour vos précisions sur cette découverte toujours fascinante, évidemment, puisqu'on le disait, c'est notre histoire qu'elle raconte, la plus ancienne trace donc du genre humain pour l'instant, 400 000 ans, donc qui nous fait reculer de 400 000 ans à 2,8 millions d'années. Merci beaucoup Yves Coppens d'être revenu cet après-midi dans la tête au carré. Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, ce sont les plus petites bactéries vivantes qui viennent d'être découvertes. 150 000 d'entre elles pourraient tenir sur la pointe d'un cheveu. Les scientifiques ne pensaient pas trouver d'aussi petites bactéries. Des chercheurs de l'université de Berkeley en Californie ont observé ces micro-organismes incroyablement petits dans l'eau souterraine de la ville de Riffle dans le Colorado. On ne connaît presque rien de ces bactéries, pourtant elles seraient relativement courantes dans de nombreux écosystèmes. Des crevettes pour mesurer la pollution, c'est le projet d'une société française, Biomae, c'est son son nom, les gamards, de minuscules crevettes d'un centimètre de long, ont la particularité d'être sensibles aux contaminants présents dans l'eau, comme les polluants émis par l'agriculture. Leurs observations permettraient de mieux mesurer l'impact des polluants sur les écosystèmes des rivières. Et puis pour terminer, l'astéroïde Cérès, bientôt en vue, la sonde Dawn de la NASA sera demain à 38 000 km du plus gros des astéroïdes de la ceinture principale entre Mars et Jupiter, tellement gros d'ailleurs qu'il est considéré comme une planète naine. On ne connaît pas grand-chose sur Cérès. Les observations de l'engin spatial vont permettre d'en savoir plus sur les étranges points brillants repérés il y a quelques semaines à la surface de la planète naine.